Vous écoutez J'irai m'instruire chez vous sur les ondes de Plume FM et aujourd'hui nous retrouvons Anthony Sérazin qui était à la salle Artemisia de la Gacie le samedi 30 septembre pour les 10 ans de la compagnie Orange Givré. À cette occasion avait lieu une table ronde autour du spectacle vivant en milieu rural pour soulever les questions essentielles. On en fait quoi? On en est où? Et est-ce que l'on est content? Bonne écoute!
Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue ici pour cet événement que l'on veut festif, mais en même temps on a envie de discuter aussi d'un sujet qui nous porte à cœur, notamment justement celle du spectacle vivant en milieu rural. Je me présente rapidement, Anthony Sérazin. Donc je suis comédien depuis une dizaine d'années, comédien référent de la compagnie Orange Givré, mais je travaille aussi avec le statut de l'intermittence avec plein d'autres compagnies. Donc je le rappelle quand même, la thématique que nous avons inscrite sur notre petit programme, le spectacle vivant en milieu rural, on fait quoi? On en est où? On est content? Eh bien, on verra à la fin de cette table ronde si on est content ou pas. Monsieur le Président, Pierre, à vous le micro.
Bonjour à tous. Alors moi, je suis là pour faire respecter le protocole. C'est une des missions que Anthony m'a confiée depuis 10 ans. Et je vais vérifier que chacun a bien un objet ou un vêtement orange sur lui. Sinon, ça va pas se passer comme on a prévu. Donc chacun montre un objet ou un vêtement qu'il a sur lui. Jean-Bernard.
Si, le jaune fonctionne.
On a prévu des verts. Voilà.
Ah, très
donc,
bien.
Le joint est très adapté aussi, Jean-Bernard. Merci. Depuis 10 ans, donc, je partage de la créativité, des délires avec Anthony. Je suis pas tout seul. On est une petite équipe qui est là depuis 10 ans. Moi, je suis arrivé avec beaucoup d'inquiétude ici hier après-midi, à savoir que je suis déjà trop long.
Oui.
Ah, d'accord. Non, c'est-à-dire qu'on partage aussi du stress. Moi, je suis rentré, j'ai l'image de l'Orange Gare où sont stockés tous ces objets que je vois, pas au quotidien, mais toutes les semaines. Et je me dis, ok, tu veux en faire quelque chose, c'est rangé à ta façon dans l'Orange Gare. Et ici, je suis arrivé, waouh, il y a une petite patte muséographique et j'ai adoré. Et vous serez d'ailleurs invité à mettre un petit mot sur ces objets ayant probablement appartenu à ou servi à. Donc à vous de délirer aussi dans ce sens-là. Orange Givré, ça a été créé pour étaler de la culture en milieu rural. C'est-à-dire l'objectif pour nous, c'est de légaliser le droit à la culture. C'est ça, comme ça que j'ai compris. Parce qu'on a l'impression que c'est pas toujours autorisé. Non ? Voilà. Favoriser le spectacle vivant. Donc c'est un projet qui a démarré autour d'Anthony, mais très vite ça s'est étoffé parce que toi, tu as plein de copains, de copines, de professionnels qui savent faire aussi et qui ont envie de donner un coup de main. Et c'est grâce à tout ce collectif que les choses se mettent en place. Et moi, je suis toujours admiratif de ça. Donc, j'ai envie de continuer à participer à ce projet. On a écrit ça dans nos statuts, donc d'étaler la culture et le spectacle vivant en milieu rural. Ça va quelquefois jusqu'au 14e arrondissement. On étale aussi du pâté sur des tartines. Alors, je suis pas là pour les placements de produits. Et quand on étale ce pâté sur les tartines, on atteint le Nutri-Score à la lettre D qui tombe sur quelle couleur? Orange. Ben voilà, vous avez deviné. Tu me dis si je suis trop long. Hein.
Non.
Tout va bien?
Ça fait 25 fois 10 secondes. Mais je compte. Mais
très bien. J'ai dit qu'on était une petite équipe, mais qui s'est vite étoffée. J'ai tendance à faire à être dans l'éloge, c'est-à-dire je l'écris avec l'apostrophe ou avec le pluriel, c'est-à-dire que je suis admiratif de tout ce que fait Anthony, de sa capacité créative, être plein d'idées. Donc, dans le bureau de l'association, eh bien, on est là pour essayer de le cadrer un petit peu. Tu nous avais fait appel pour avoir un miroir sur tes activités, puis te faire un retour pour est-ce que je suis dans le ton juste? L'objectif est d'être toujours un petit peu décalé, mais au final, de viser juste. C'est ça qu'on s'est donné un petit peu comme mantra. Et donc, on n'y arrive pas trop mal. Et tous les ans, on lui fournit un agenda pour qu'il puisse prendre des vacances, sinon, il n'arrêterait pas.
Le petit mot sur la boîte à outils, moi, j'aimerais bien.
D'accord. On a installé une boîte à outils qui, pour l'instant, elle est pas peinte. elle est devant vous ici. Donc il y a même une bombe de peinture de la bonne couleur. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette table carrée, eh bien, on ait quelques outils pour continuer à légaliser le droit à la culture en milieu rural, favoriser le spectacle vivant en milieu rural. C'est ça l'objectif.
Donc c'est toi, Pierre, qui sera normalement préposé en fin de table ronde pour nous sortir dans cette boîte à outils, eh bien, quelques outils que tu auras repérés tout au long de notre conversation en se disant, bah, tiens, ça peut être un bon outil pour développer le spectacle vivant en milieu rural.
Tout ce que j'aurais entendu.
Voilà, eh bien, donc tu as ton petit cahier avec les lignes oranges pour pouvoir noter tout ça. Avant toute chose, merci Pierre. J'aimerais aussi faire un clin d'œil, notamment très très appuyé. Alors ça, c'est pas très radiophonique, mais notamment à Brudaid. Brudaid, donc l'association. Alors normalement, c'est Bretagne Rural Développement Durable, si je me trompe pas. Mais c'est même plus ça que ça veut dire, parce qu'après, on n'arrive plus. Quand on regarde, c'était ça au départ. C'est ça, Gwenaël. Mais maintenant, ça veut dire autre chose. Je l'ai, l'autre nom. C'est, je l'ai sous les yeux, réseau d'échange d'expériences de développement local durable entre les collectivités rassemblant plus de 300 collectivités. Mais quand on met tout ça bout à bout, ça fait pas du tout Brudaid. Hein. Ça marche pas du tout, Gwenaël. Donc Gwenaël, maire de la Grigonnet, dans le 44, chez les Bezous de Châtaigne.
Ouais, merci pour l'invitation. Brudaid, en fait, c'est Bretagne rurale et urbaine pour un développement durable.
J'étais pas loin.
Qui s'étale sur 5 départements, parce que la Loire-Atlantique est en Bretagne, là-dessus il n'y a pas de débat. Donc voilà.
Et donc le petit mot, peut-être qu'on peut continuer avec. Alors on se tutoie, on se vous voit, on va essayer de se tutoyer, c'est
on
peut-être
se
plus simple.
En dehors, donc on
voilà,
va se tutoyer.
Voilà, donc c'est. Je voulais faire un clin d'œil parce que vous êtes aussi partenaire de cette matinée. Puisque vous avez aidé avec Orange Givré à organiser, à inviter ces 300 communes notamment, et parce que vous avez un projet aussi autour de la culture. Enfin, peut-être une présentation en quelques minutes de ce que vous faites ensemble et puis le volet culture.
En 3 fois 10 secondes, ça marche ?
Un petit peu plus. Ouais. Allez, on a le droit un petit peu plus.
Alors déjà, 2-3 mots sur Brudaid, très rapide. C'est 264 communes adhérentes sur les 5 départements. Alors, c'est pas 264 par département, c'est sur la globalité. Hein. Et 7 EPCI, hein. Ce qui veut dire que ce sont des élus qui échangent sur des projets en lien avec la transition écologique, la transition énergétique, sur le développement durable au sens large. Et la culture est un des points qui est à jour, qui est à l'honneur en ce moment. Parce qu'on a, on organise au niveau du réseau des cycles de visites. Hein. Sur les 5 départements. Et là, on a un cycle de visites Brudaid Culture qui commence. Donc là, c'est un peu le premier jour. Hein. Sur plusieurs dates, on va se retrouver, entre autres, à Concoret, à la communauté de communes de Nozay. Je regarde ma fiche, hein, j'ai mon pense-bête
ici. Alors que vous pourrez retrouver d'ailleurs, hein, y a sur le manche debout, là aussi, c'est très radiophonique ce que je dis. Ouais. Mais juste derrière, vous avez toutes les dates qu'on pourra donner aussi en fin de table ronde. Mais le principe, c'est vraiment de montrer aussi des expériences.
C'est ça.
D'élu à élu, normalement.
Oui, mais pas que, la preuve, hein, c'est une première, ouais. Là. La force du réseau, c'est de montrer ce qui marche bien, mais c'est aussi d'évoquer ce qui ne marche pas, pour éviter que les petits copains retombent dans des écueils. C'est très, très apprenant, en fait, de pouvoir échanger sur nos différents projets au sens large.
Merci beaucoup. Voilà, je voulais quand même montrer et mettre en avant ce partenariat qu'on a eu pour vous qui êtes là aussi présents ce matin. C'est grâce certainement aussi au grand travail des Brudaid. On fait, Sylvie, rapidement, un petit tour en 10 secondes de chacun, chaque personne. On a le temps de le faire. Chacun se présente et nous dit quelle compagnie ou qui il est. Voilà, pour faire l'appel. Allez-y, Sylvie. Allez-y. Faites l'appel.
Myriam Jugat, photographe.
Super. Brigitte Trimelot, chorégraphe, compagnie Pied en Sol.
Voilà. Dominique Emery, adjointe à la culture à Bain-sur-Oust. Invitée par Brudaid.
Marie-Christine Pro, Bain-sur-Oust.
Mickaël Tanguy, VP Culture, VHBC, Ballon de Bretagne Communauté.
Et vous avez un peu plus de temps. Hein, vous...
Là, c'est bien, là, c'est très bien.
Mathieu Salin, compagnie Souco des Vivos à Glénac.
Alors, Gwenaël Baudou, même compagnie, et spectacle de feu d'étincelle, spectacle pour les enfants, et également maintenant accompagnement de compagnie à la création, à la mise en scène, etc.
Yves Perrenot, journaliste, la lettre du spectacle, la lettre Dru.
Je pose l'appel. Hein.
Faites, c'est lui.
Maïlis Taupin, pour la Fédébraise, la Fédération des Arts de la Rue en Bretagne.
Haute partie, adjointe à la culture, appelons le grand.
Alexandra Chivamélis, compagnie de Tea Time de marionnettes, située à Payac.
Joël Scotté, la compagnie Pylone, une compagnie qui est en construction là, sur des projets artistiques en milieu rural. Voilà, aménagement, valorisation du territoire.
Tristan Caillé, compagnie Tamatam. Nous, on travaille avec le son. On a entre autres un entresort sonore dans une caravane sauna et aussi là avec la Fédébraise.
Rose Martin, élue à Saint-Nicolas-de-Redon, commission culture.
Marina Kivoy, donc moi je travaille à Beau Communauté et à la direction du service culture qui organise entre autres un festival qui s'appelle L'Échappée. Voilà.
Merci.
Mayouen Olnet, conseillère municipale déléguée à la culture à RC-en-Lamy.
Je peux prendre le micro ? Merci. Bonjour, Bertrand Cotevel, compagnie Tapa Dibal. Je suis circassien, je viens de Redon. Merci.
J'ai plus de travail.
Catherine Féchauvel, je dirige une école supérieure culture, spectacle vivant, qui forme des musiciens et des danseurs.
Marine Fier, la compagnie Les Mots Papillons à Bain-sur-Oust.
Jean-Loup Lebrun, élu à Allaire.
Margot Servier, je fais partie de la compagnie Le Ventre et on a un théâtre itinérant sur le pays de Redon qui s'appelle Le Tour du Ventre.
Sonia Lassagne, le festival des aventuriers de la mer, qui travaille depuis 8 ans avec la compagnie Orange Givré.
Damien Guillas, maire adjoint à Culture à la Renac.
Pauline Sémaud, de l'association Les Circassiers, on gère le lieu Terrain Vague à Redon.
Joël Eusé, VP Culture, Les Fermeurs Communauté.
Marie Launay, habitante de Pipriac, souvent bénévole sur le Tour du Ventre, compagnie Le Ventre.
Rosaine Simon, moi je travaille pour le réseau Brudad.
Oui, encore, Joël Eusé, VP Culture.
Est-ce que j'ai...
Juste les gens derrière au fond, là-bas. Il manque juste les derniers...
Oui, bonjour, Levinia Olivier-Gégat, moi je travaille au service culturel de la ville de Malétroit.
Edern Olivier Gégat, chargé de DIF à l'usine production.
Là, j'ai l'impression qu'on va faire un tour de famille après. Hein, il risque d'y avoir quelque chose comme ça. Ouais.
Et on a le dernier.
Wenceslas Servieux, musicien du pays qui a collaboré plusieurs fois avec Orange Givré.
Merci beaucoup. Vous voyez, ça n'a pas été long, mais comme ça, ça permet déjà de voir un peu qui est là et qui est intéressé à tout ça.
Et on a notre barman là-bas qui est le secrétaire de l'association Orange Givré.
Ça va, Sylvie. Et on a oublié aussi Brice. Mais on va lui dire un grand merci comme ça. Ça va. Merci, Sylvie. Merci, Sylvie. Et alors, maintenant, eh bien, on va
je me permets juste...
Moi, Sylvie.
Je me présente sous une autre casquette. Voilà. Moi, je représente la compagnie Les Ferrailleuses des Côtes d'Armor également. Mais je
de
travaille beaucoup avec Orange Givré. Mais mon oreille... J'ai une oreille Orange Givré, une oreille ferrailleuse. Voilà.
Merci, Sylvie. Formidable. Donc, on n'a pas trouvé mieux que de trouver les deux communes qui sont les plus éloignées de Bretagne, entre Payac et Plougrescant, de 300 km. C'est pire que Brest, donc c'est formidable. Continuons ici le tour de table avec ceux qui nous invitent ici aussi, Fred et Yvon.
Bonjour, Frédéric Guillaumard, je suis le directeur et le programmateur d'Artemisia depuis 5 ans maintenant, puisque vous fêtez vos 10 ans en même temps qu'on fête nos 5 ans à Artemisia. Donc voilà, bienvenue à vous, bienvenue à Orange Givré. Et puis voilà, j'aurai l'occasion aussi de vous dire que je suis un enfant de la culture du milieu rural, puisque je suis né dans les fins fonds des terres finistériennes dans un petit village, et que voilà, j'étais pas forcément amené à toucher la culture au début, puis ben de fil en aiguille, et grâce aux aménagements en milieu rural, j'ai réussi à vivre dans et avec la culture.
Waouh, eh bien on a hâte d'entendre tout ça.
Yvon.
Donc Yvon Castel, je suis le local de l'État puisque je suis l'adjoint à la culture de l'Agacie. Je suis né également dans un petit village du Finistère au Clos de Saint-Éguanec où il y avait de la culture que agricole. Donc je suis content d'être à l'Agacie où il y a quand même des choses qui se passent.
Merci Yvon. Jean-Michel Le Boulanger, bonjour.
Bonjour.
Et je tiens à vous dire que bravo pour le dress code parce que vous n'aviez pas vu, tu n'avais pas vu, mais tu as des chaussettes orange.
Presque.
Presque orange. Mais le orange, c'est toujours un savant mélange entre le rouge et le jaune. Et donc là, ça tire un peu plus sur le jaune, mais ça marche.
Merci.
Merci pour le clin d'œil.
Jean-Michel Le Boulanger, je suis ex. Voilà.
Un ex pour toujours.
Je suis un ex. Non, alors, j'étais vice-président chargé de la culture de la région Bretagne de 2010 à 2021 et premier vice-président de la région Bretagne de 2017 à 2021. Je le dis parce que ça fait toujours plaisir à ma mère et vu que c'est retransmis sur les ondes, enregistré... C'est important pour moi. Je le dis aussi parce que j'étais le seul premier vice-président d'une grande institution démocratique chargée de la culture. Mes collègues étaient tous ou à l'économie ou aux finances. Voilà.
Et merci d'être là. Alors si Jean-Michel, tu es là aussi, c'est parce qu'on a, avec Orange Givré, plusieurs fois eu le loisir de parler de ce sujet. Et bah, c'est un grand plaisir de t'accueillir ici. L'idée, Jean-Michel, si tu le veux bien, pour cette journée, ça sera aussi que tu aies un peu le rôle du parrain, un peu, et aussi de
Je vais chercher mes lunettes de soleil pour jouer le rôle du parrain.
On en a, des oranges. Mais en tout cas, c'est aussi que quand tu entendras des choses ici, eh bien que tu aies aussi la possibilité à n'importe quel moment, comme tout le monde, mais plus spécifiquement aussi par rapport à ce que tu as pu vivre justement à ce poste-là, pour apporter encore quelques éléments complémentaires avec plaisir dans cette table ronde.
Je peux commencer ?
Ouais.
Eh bien, je vais m'adresser à mes deux voisins de gauche qui ont dit tous les deux la même chose, à savoir qu'ils sont nés dans une petite commune rurale où il n'y avait pas de culture en quelque sorte. Moi aussi, je viens d'un milieu rural, d'un milieu agricole. Mon grand-père n'est jamais rentré dans un musée, il n'est jamais rentré dans un théâtre, c'est certain. Il est peut-être rentré de rares fois dans un cinéma, mais il avait une culture que je n'ai pas. Voilà. Alors, donc, premier élément, puisque tu me dis de prendre la parole quand je le veux, c'est quoi la culture ? Mon grand-père, il connaissait les arbres, il connaissait les oiseaux, il connaissait les vents mieux que je ne le fais et que je ne le ferai jamais, alors que je suis peut-être rentré 100 fois, 1000 fois dans un musée, dans un théâtre ou dans un cinéma. C'est quoi la culture ? Voilà, vous avez,
on se donne 2 heures.
Vous avez 1 heure et demie.
On n'a plus qu'une heure et demie, ouais. Et vous passez une ligne à chaque fois pour qu'il puisse corriger quand même. Hein.
En transition, j'ai vu rentrer Michael Bloyer, qui est aussi une cheville ouvrière dans Orange Givré. C'est lui le gardien de notre trésor. Merci d'être là, il est toujours en soutien et toujours aidant. Merci Michael.
Continuons la table ronde avec Gwenaël. On a fait le petit mot sur la Grigonnet aussi. Il y a normalement la compagnie Paris-Bénarès qui devait être avec nous, mais qui a eu un empêchement. Donc, eh bien, ce sera normalement l'idée, c'était de faire aussi des fois à deux voix. Donc, tu changeras de voix quand tu parleras au nom de la compagnie Bénarès.
Plutôt grave ou égale.
Ouais, hein. Voilà, ce sera selon ton choix, n'importe. On continue donc avec justement une parole qui va se faire à deux voix sur la compagnie Heidi Amégrandi. Bien le bonjour.
Merci Anthony. Bonjour à vous tous. Benoît Gérard de la compagnie Heidi Amégrandi. Basé sur Plélan-le-Grand, en collaboration aussi avec la ville de Plélan-le-Grand. C'est la compagnie Heidi Amégrandi a 10 ans. Elle a été, nous aussi, on fête nos 10 ans. On les a fêtés entre nous, mais on les fêtera l'année prochaine au festival Les Chardons Ardents qui aura lieu sur Plélan-le-Grand. Ça fera 10 ans que ce festival existe. Pour la petite histoire, je ne vais pas m'étaler sur la compagnie Heidi Amégrandi. Je vais plutôt vous expliquer un petit peu d'où est-ce qu'on vient, vite fait. On s'est installé il y a 20 ans maintenant à Plélan-le-Grand en rénovation et avec ma compagne, on s'est rendu compte que, quelque part, en discutant avec le voisinage, les gens arrivent rarement au spectacle. Je parle du spectacle vivant, pas du... Voilà. Et il a été mis l'idée qu'à la maison, on pousse les meubles, on fasse des photocopies et qu'on aille distribuer dans les boîtes aux lettres du voisinage une invitation en disant, voilà, vous venez avec du petit salé, vous venez avec un petit sou, on vous offre l'apéro, et en plus de ça, vous allez voir un spectacle. Ça a commencé la première année avec une trentaine de personnes, la deuxième, il y en avait 50, la troisième, 80, quatrième, 100 personnes dans la maison, donc on était un peu comme ça. On a fait une cinquième année, il y en avait des escaliers, certains pendus au lustre, et donc on a fait, c'est plus possible, on va faire ça à l'extérieur. Et donc on a mis en place un chapiteau, et on a fait... On ne va pas faire qu'un seul spectacle, on va en faire deux. Et là est né le Festival des Chardons Ardents, dans le jardin. Et puis, ben, la même chose s'est reproduite également chez nous, dans le jardin. Il y avait 150 personnes, 200, 220, 250, 300, 400 personnes. Tout le monde était là, pendu aux arbres. Et à un moment, on en a fait, ben, c'est plus possible. Et donc là, je passe la parole à Muriel.
Merci, Benoît. Donc Muriel Douté-Bouton, maire de Pléan-le-Grand depuis 2016. Je suis aussi administratrice de Brudède avec Gwenoël. Et je suis la caution parité de cette table ronde, n'est-ce pas? Et donc, bah, on parlera peut-être tout à l'heure des collaborations. Je ménage un peu de suspense avec ce qu'a dit Benoît.
Et on va terminer cette table ronde, ça tombe bien, avec Jean-Bernard, Jean-Bernard Vigetti. Jean-Bernard, l'invitation, elle est plus qu'amicale. Parce que Jean-Bernard, donc un petit mot, c'est difficile toujours de présenter des personnes, mais je vais le faire avant toi. Jean-Bernard est donc le maire de la commune de Payac, pour tous les Payacois, même s'il n'est plus maintenant, il est encore le maire de Payac. Arrivé en 1989, j'ai le souvenir, j'avais seulement 13 ans, et à ce moment-là, Jean-Bernard avait fait une grande réunion où il invitait tous les jeunes pour savoir ce qu'on voulait. Et je me souviens d'une ouverture d'esprit incroyable où on disait « Ouais, nous, on veut ça, on veut ça, on veut notre salle omnisport, on veut nanana. » Et puis très rapidement, il y a un foyer d'animation rurale qui a été créé avec des jeunes de 18-20 ans qui ont fait confiance à des petits jeunes de 13-14 ans. Où, d'ailleurs, j'étais le premier président à 14 ans de la section jeune du foyer d'animation rurale. Et c'était en 1989. Et à la suite de ça... Je parle un petit peu de ma vie quand même, mais il y a eu un long cheminement avec ce monsieur, jusqu'à travailler quelques années à Payac, et puis après d'autres chemins se sont partis. Mais en tout cas, Jean-Bernard fait partie des personnes qui, quand on croise des personnes comme ça dans la vie, eh bien permettent d'aller à un endroit où on pensait pas qu'on allait aller. Et aujourd'hui, je suis très reconnaissant. Et l'idée, ben, c'était de donner la parole en introduction de tout ça, parce que on peut le dire rapidement, mais il y a plus de 40 ans de développement local, d'envie de travailler sur la culture. Alors, on va pas refaire tout le CV de Jean-Bernard. Je vais te demander de pas le faire non plus. On a qu'une heure et demie, mais c'est quand même la création du Festival de la Bogue ici, qui est un festival très important. Et comme le disait Jean-Bernard, autour de la culture, qu'est-ce que la culture? Autour de la culture traditionnelle, justement, la Bogue a fait un sacré boulot où on a su mettre en avant des personnes qui justement disent « Mais moi, je sais pas chanter, je connais rien. » Et puis on les retrouve devant un théâtre à chanter un air traditionnel devant 500 personnes avec des moments magiques. Je ne vais pas m'étaler, mais en tout cas, c'est ça. C'est aussi la création de la Fédération d'animation rurale des Pays de Vilaine, les petites cités de caractère, mais aussi 25 années de direction des Tombées de la Nuit. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un pont aussi entre ce qui peut se passer en ville et ce qui a pu se passer à Payac en termes d'exploration et d'expérimentation autour de la culture. Et ça sera partie des sujets aussi. Est-ce qu'on met culture et social ensemble? Est-ce qu'on les sépare? En tout cas, il y a eu beaucoup d'expérimentations autour de ça où on a pu profiter de tout ça. Merci Jean-Bernard. Et donc, je te laisse 7 minutes. 7 minutes pour essayer de parler de ces 40 ans et de l'avenir aussi et de comment tu peux imaginer un peu cette thématique pour qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet.
Oui, merci de m'avoir accueilli. Merci aussi pour ton intervention. Il est vrai, donc, moi aussi, je suis né à Limerzel. Voilà. Les parents de Coucy en milieu rural. Et pourquoi Limerzel? Parce que mes parents, donc, étaient des réfugiés. Mon père n'avait pas voulu faire le STO. Et donc, on se cachait là-bas. Et après, on est revenu sur Saint-Nazaire. Mon père travaillait dans l'aviation, au chantier de construction d'avions. Mon grand-père maternel, lui, travaillait comme forgeron au chantier de Parouette, breton comme c'était pas possible. Voilà, très, très engagé aussi sur la gauche, voilà, je le dis aussi. Et il y avait aussi ma marraine, donc, qui, elle, travaillait à l'urbanisme. Et donc, quand on est arrivé sur Saint-Nazaire, et on a pu y arriver, parce que justement, ces personnes-là étaient des personnes qui pouvaient relancer la machine nazérienne. La ville était archi-détruite. Hein, c'était assez invraisemblable que d'aller le découvrir. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Exactement la même chose. Donc voilà. J'ai fait découvrir ça aussi, donc ce qui marque aussi fortement. Et puis, la famille s'est installée, a pu s'installer dans une villa qui avait été réquisitionnée par les Allemands et puis qui a été récupérée aussi pour des personnes comme eux. J'ai découvert la boule et la boule, voilà, la boule des pins plus exactement. On faisait du ski dans les dunes, etc., etc. Enfin, j'ai une jeunesse très particulière, si je puis dire. Et du coup, je n'avais pas vu, par contre, de ferme. Je n'avais pas vu non plus ce qu'était une ville ouvrière, etc., etc. Donc, j'arrivais quand on est parti sur Saint-Nazaire, j'avais 9 ans. Je suis parti avec une méconnaissance de tout ce que je viens de mettre de côté là. Donc voilà. Donc à Saint-Nazaire, eh bien, quand vous avez tout est détruit ou comment il y a des bungalows partout, etc., etc. Donc la jeunesse et les femmes surtout se sont engagées fortement dans la renaissance de la ville. Donc j'ai assisté à la reconstruction, bien entendu. Les hommes travaillaient au chantier, aux différents chantiers, et les femmes élevaient les enfants et s'engageaient aussi pour créer une humanité à cette ville qui avait été totalement détruite. Donc je suis parti de là, moi. Je suis parti de ce qui était improbable. D'autant plus que ma famille, donc, quand j'étais à la boule, il y a 6 personnes de la famille qui sont décédées des suites de la guerre 39-45. Ma mère était aussi avait chopé une tuberculose osseuse, et ce qui fait qu'elle ne pouvait pas se lever. Donc voilà, un peu ce que j'ai vécu dans ma jeunesse. Et ça m'a marqué comme c'était pas possible, quoi. Et les jeunes de Saint-Nazaire donc voulaient évidemment que la ville renaisse, les femmes encore davantage, si je puis dire, peut-être que les jeunes recréer la ville. Donc c'est ça qui était important. Et donc quand je suis devenu géographe et que je terminais mes études, j'avais donc puisque je connaissais bien la presqu'île irlandaise, j'ai fait une thèse sur le sujet, et qui a fait que je pouvais avoir le choix entre être enseignant, hein, j'étais agrégatif à l'époque, ou passer vers autre chose, vers le travail donc de revalorisation des territoires, donc l'aménagement du territoire. J'ai choisi cette voie-là. Mais encore fallait-il trouver effectivement des lieux ou des sites qui on voulait, quoi. C'était la Chambre d'agriculture régionale des Pays de la Loire s'occupait un peu de cela. Les pouvoirs publics, donc l'État s'est rendu compte que le monde rural souffrait aussi. Il y avait aussi le monde agricole aussi bougeait beaucoup. Et donc l'État a décidé de créer donc une politique de rénovation rurale. Et dont dont la région de Redon était finalement le centre, hein, ou le centre de cette politique-là. C'était un lieu de test de ce que pouvait être la rénovation rurale par les pouvoirs publics. Donc il a été créé le COQ à part, donc, qui réunissait donc tous les acteurs de la vie du territoire. Donc voilà. Et donc j'ai découvert, donc, puisque j'avais en charge le tourisme et la culture, la première des choses que j'ai faites, c'est d'aller, d'autant plus que mon grand-père, je me rappelle qu'il était breton, très, très marqué, donc j'ai voulu savoir ce qu'était effectivement, puisque j'avais en charge le tourisme, la culture et le patrimoine, donc j'ai essayé donc de voir ce qui se passait sur place. Alors sur place, il y avait déjà dans ce domaine-là, Tikendar, donc Tikendar, donc un centre culturel qui avait été créé par le mouvement breton, mais tous ceux qui s'en occupaient étaient partis, s'étaient mariés, etc., etc. Et quand je suis arrivé sur place, le travail qui avait été fait sur la recherche, sur tout ce qui était les champs, le compte, etc., du secteur, n'était plus suivi. Et donc j'ai fait donc l'inventaire de tout ce qu'il pouvait y avoir sur le territoire, qui était méprisé souvent, parce que c'est un territoire où il y avait des marais, etc., etc. Donc, et ça, c'était pas bien vu. Voilà, donc j'ai essayé de voir un peu ce qu'était ce territoire. Alors, qui s'intéressait déjà à ça n'était plus là. Et je me suis retrouvé, donc, comme chargé de mission, au quoi qu'à part, là, pour avancer, quoi. Et le commissaire à la rénovation rurale est venu me voir. Et puis il me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Alors je lui explique un petit peu, mais il me dit, mais c'est pas ça que je veux que vous rencontriez les gens, etc. Et je sors donc un ouvrage que j'avais fait, j'avais recensé pour le tourisme rural tout ce qui se passait en France dans ce domaine-là, qui était naissant. Parce que le tourisme rural, contrairement au tourisme littoral, c'est complètement autre chose. C'est une tourisme de la rencontre, un tourisme de complément, etc., etc. Il fallait donc découvrir tout ça. Donc j'ai effectivement j'ai sorti cet ouvrage. Ça a été un coup dans le foie de ce commissaire de rénovation rurale qui venait de Madagascar, qui était dans les colonies françaises. J'ai eu tout ce que je voulais après pour développer recenser tout ce qui tournait autour du patrimoine. Pour aussi essayer de relancer cette culture populaire et surtout de faire en sorte que ce territoire soit reconnu, se relève. Mais avec aussi quand même un problème qui était le découpage administratif. 3 départements, 2 régions, c'était quelque chose d'assez invraisemblable. Et il a fallu passer tout cela. Et donc avec le comité d'expansion qui s'était créé sur place du pays de Redon, donc on a pu effectivement déborder ses limites et arriver donc à créer finalement un vrai pays de Redon, hein, que j'ai appelé un vrai pays de Vilaine aussi, puisqu'on embrassait un territoire plus vaste. Donc ça veut dire que c'était à peu près 200 000 personnes qui étaient intégrées donc dans cette politique-là, qui était exclusivement donc tournée vers la ruralité. Et donc ce que j'ai voulu montrer ou démontrer, c'est que que la ruralité avait une culture qui était tout à fait exceptionnelle, qui n'était pas reconnue ou pas suffisamment reconnue, et on a créé plein de choses. Si vous voulez, la première des choses que j'ai faites, c'est déjà de dire il faut créer quelque chose pour les jeunes. Tu en as parlé tout à l'heure, mais dès 1960 71, j'arrivais en 69, là, soit en 71, on créait donc une fédération de foyers d'animation rurale, dont on a fêté les 50 ans, 50 ans, oui. Ça, voilà.
Donc ce que j'entends, c'est que là aussi, il y a l'idée de se dire que ceux qui portent aussi la culture, c'est ceux qui aiment leur territoire, qui sont, l'idée c'est de faire connaître leur territoire, de leur faire aimer pour pouvoir être acteur aussi sur le territoire.
Oui, c'était tout à fait ça. Donc, moi, ce que je souhaitais aussi, c'est que, par exemple, quand j'ai créé la fédération, j'aurais pu avoir un animateur par foyer. Il n'y avait que 3 foyers. Et j'ai dit non, ce ne sera pas ça. Il y a un animateur. Et dans chaque foyer qui était les 3 foyers, c'était aux jeunes de se débrouiller.
Oui.
Non, c'était les jeunes de se débrouiller. Mmh. Mais avec, évidemment, en coordination avec cet animateur. Ce qui leur donnait des responsabilités immédiates pour pouvoir
être acteur.
Voilà, ouais. Être acteur.
Je vais pouvoir redonner la parole justement à Ben. Ben, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a fait arriver, vous, à Plélan le Grand et à quel moment vous avez eu envie justement et quelle connexion il y a eu sur cette commune avec notamment les élus, enfin ce sera la question subsidiaire. Ouais.
Merci Anthony de poser cette question parce qu'elle est très intéressante. C'est le simple fait que dans les grandes villes, tout est saturé. Ayant voyagé un petit peu, travaillé dans différentes villes, comme par exemple Angers, Châteauroux, avec différentes compagnies à l'époque, je me suis retrouvé en tournée en Norvège et en Suède et je n'avais pas vu ma fille depuis 2 ans. Donc je suis rentré sur Rennes pour m'occuper de mes enfants. Et là, je me suis rendu compte que, mine de rien, au niveau de différentes compagnies existantes et propositions artistiques existantes dans les grandes agglomérations, c'était saturé. L'idée, elle a été faite, puisque c'est pas possible, autant aller ailleurs. Et je me suis retrouvé déjà pas mal de fois à organiser des jeux de rôle grandeur nature en forêt de Brocéliande. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce pays-là, parce que je le trouve déjà magnifique. J'adore les arbres. Et effectivement, quand on voit que la culture est assez vaste dans le domaine de l'intelligence et puis des connaissances et du savoir, en rencontrant des personnes formidables qui nous ont accueillis en fait plus ou moins les bras ouverts, donc on s'est fait des tas d'amis, des rencontres formidables. La chose aussi, c'est que l'idée également de par notre métier, c'est de pouvoir, on va dire, créer des outils. Et l'outil principal dans le domaine artistique et particulièrement dans le spectacle vivant, c'est le domaine associatif. Donc, lorsque on est arrivé sur Plélan le Grand, on a tout de suite on a réfléchi pour créer une association afin de pouvoir, on va dire, mettre en place les spectacles qu'on avait à proposer au travers d'une association. Pour en revenir aussi à ce qui était défini en amont par M. Viditti, également le domaine et la dynamique des foyers ruraux sont très 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 importantes. La cohésion et l'organisation qui est mise en place par les différentes collectivités étaient pratiquement inexistantes sur Plélan-le-Grand, avec aussi une envie de dire tiens, on va pouvoir ouvrir aussi la culture aux jeunes. Et ça a été très 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 difficile de mettre ça en place parce que dans le domaine rural, je jette pas la pierre, mais il y a une espèce de convention qui est mise en place et qui a un petit peu du mal à évoluer avec, on va dire, un espèce de regard métropolitain en disant c'est le milieu rural, c'est figé. Or, c'est faux. Le milieu rural est continuellement en mouvement. Avec des véritables envies aussi de défendre non pas une culture qui vienne de manière verticale, mais aussi avec une véritable envie de partager les connaissances, que ce soit dans le milieu rural. Parce que dans un environnement naturel, plus proche de la nature et beaucoup moins urbaniste, il y a une vraie perte de connaissances et de savoir aussi. Parce que c'est vrai que la culture, elle n'est pas spécifiquement, on va dire, intellectuelle. La culture est plein d'intelligence et de savoir et de connaissances. Et le milieu rural est proche, on va dire, de ce qui est, de l'environnement, de la nature. Et c'est ce qui manque un tout petit peu dans le domaine urbaniste. Des urbains, les gens qui vivent dans des grandes villes, sont en déconnexion totale avec cet environnement-là. Or, en l'occurrence, c'est ce qui nous fait vivre. la nature nous fait vivre et non pas n'empêche pas en fait le développement. C'est nous qui empêchons, on va dire, le développement de la nature. Et vivre en harmonie avec la nature aussi, ça passe par, on va dire, la connaissance et le savoir. Et le savoir n'est pas spécifique uniquement au spectacle, parce que la nature aussi est en soi un beau spectacle. C'est pas mal ce que je viens de dire là.
Waouh! Eh ben alors, comme moi, c'était pas ça que je pensais t'amener, donc là, maintenant, je suis bien embêté. C'était pas la question qui suivait. En tout cas, alors, quand on arrive, on choisit Plélan le Grand. Là, on va arriver sur aussi la notion avec le partenariat. Et donc là, on revient aussi avec deux élus qui sont de part et d'autre de toi, là. J'aimerais qu'on entende un peu comment vous avez eu envie aussi, Muriel, avec Plélan le Grand, avec ce qu'on a entendu justement peut-être d'un point de vue d'un habitant de Plélan le Grand. Développer, travailler sur le thème de la culture et puis vous appuyer aussi sur une compagnie installée sur la commune.
Oui, donc l'équipe, la première équipe avec laquelle je suis devenue maire a été élue en 2016, donc c'est un deuxième mandat de maire pour moi et mon équipe et Aude qui est dans la salle. On s'est tout de suite dit que de toute façon, avec 4100 habitants, 30 km de Rennes, on n'avait pas les moyens de mettre en place un centre culturel avec une programmation. C'est le cas dans d'autres collectivités, hein. Mais qu'il fallait qu'on tire parti des atouts et des richesses du territoire. Ces atouts et ces richesses, c'est l'énorme profusion d'artistes qui se sont implantés sur Plélan et aux alentours. Donc Heidi a bien grandi est un des exemples. Il y en a d'autres. On a la chance d'avoir un cinéma. On a des musiciens. Donc c'est un territoire en fait qui foisonne d'artistes qui ont fait le choix de s'implanter pour diverses raisons à proximité. Et donc on s'est dit, il faut qu'on soit aidant, il faut que la collectivité soit aidante et ne mette pas de bâton dans les roues pour que des propositions artistiques, quelles qu'elles soient, puissent émerger, puissent être données à voir et puissent venir compléter finalement le panel de propositions culturelles sur le territoire qui vont, on a parlé du tourisme, effectivement, Brocéliande, c'est très très touristique, hein, la Gacilly aussi. Donc ils vont de propositions culturelles saisonnières à des propositions culturelles toute l'année. On fait le constat qu'il y a beaucoup de manifestations associatives en gros de mars jusqu'à octobre, mais en hiver il faut que les gens puissent avoir accès à la culture. Donc une fois Heidi installée, on s'est rapidement trouvé un peu sur la même longueur d'onde et les choses se sont faites progressivement. Benoît a expliqué que les chardons ardents au départ c'était à Trégu dans son jardin, c'était super sympa d'ailleurs, tu parlais du lien avec la nature, mais monter des chapiteaux en pleine nature c'est super, ça permet d'avoir de la belle lumière, ça permet de profiter de soirées, ça permet de faire des éclairages et de jouer avec des éclairages, c'est complètement différent de mettre en scène des spectacles dans des salles, même si les balances sont parfois compliquées, n'est-ce pas, mais voilà, Trégu, c'est le lieu dit où habitent Benoît et Fatima, s'est trouvé assez vite à l'étroit. Et donc, avec Aude, on a discuté de la possibilité de ramener le festival dans le centre-bourg pour aussi lui donner plus de visibilité, parce que c'était beaucoup des habitués et des réseaux, hein, finalement, c'est souvent les mêmes personnes qu'on retrouve sur ces événements-là. Et donc, on a fait un premier essai à côté de la Plaine des Sports. Vous avez trouvé que c'était bien, pas bien, on y est revenu. Et puis finalement, on a un lieu un peu emblématique de la commune à Plélan qui est lié à l'histoire du vélo, c'est le vélodrome. Un vélodrome qui a été construit au début du XXe siècle et juste derrière la mairie, qui sont des anciennes halles. Et c'est un lieu à la fois qui est ouvert et fermé. Ouvert parce qu'il est en plein air et fermé parce que comme c'est un vélodrome, eh bien, c'est une sorte d'écrin en plein centre-ville. Et donc, ça fait plusieurs années que le Festival des Chardons Ardents a lieu sur le vélodrome. Donc, notre boulot à nous, c'est de répondre aux besoins de la compagnie en compteur, en barrière, en signalétique, on en parlait cette semaine, en affichage et en com. Donc, par exemple, le flyer, la brochure de présentation du festival est implantée dans le bulletin municipal qui paraît avant l'été. Donc Ben et son équipe viennent en mairie et puis ils encartent dans le Plélan Mag avant qu'il soit distribué. Ça, c'est un exemple de collaboration. Ça peut paraître trivial. Mais au final, tous les habitants de la commune qui reçoivent le bulletin municipal reçoivent la programmation. Et ça vous coûte un petit peu de temps.
C'est juste du temps.
Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, la compagnie est une super compagnie d'impro. Et donc, dans le cadre de notre partenariat, on met à disposition la salle des fêtes, gracieusement, pour que des spectacles d'impro puissent avoir lieu 3-4 fois par an. le vendredi soir, et ça marche super bien. Donc c'est un moyen pour la compagnie d'avoir une activité l'hiver sur place, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que Heidi, comme d'autres, sont souvent méconnus. Alors, on dit souvent que nul n'est prophète en son pays, mais on est face à des compagnies qui tournent au niveau national, voire international, et qui, sur place, sont finalement pas connues. C'est-à-dire que certains ne se rendent pas compte de la qualité des artistes qu'ils ont à leur porte. Et donc, on estime qu'avec nos moyens, notre rôle, c'est aussi de donner une visibilité. Alors, ça peut être à Heidi, ça peut être à d'autres structures. Mais en tout cas, c'est vrai que le fait d'ouvrir des espaces publics, ben, ça fait partie du jeu, et c'est ce qui permet aussi de donner de la visibilité et de créer l'habitude de venir au spectacle. Parce que quand on a 10 ans, tu me coupes quand je suis trop longue, quand on a 10 ans d'existence pour un festival comme les Chardons Ardents, eh ben, on se rend compte que vous arrivez à agréger de plus en plus de public, des jeunes aussi. Dans l'échange qu'on a eu, il y a eu l'échange autour de comment est-ce qu'on ouvre aux écoles. Et donc, une fois les chapiteaux implantés, parce que ça met une semaine quand même à implanter ce festival, eh bien, vous accueillez les écoles sous le chapiteau qui ont accès à un, deux spectacles. Et donc, ça donne envie aux gamins de revenir. C'est-à-dire que moi, quand j'y vais, je croise aussi des enfants qui amènent leurs parents parce qu'en fait, ils ont adoré le spectacle de la veille. Donc, le fait de passer par les scolaires, c'est aussi un vecteur...
Une porte d'entrée.
Voilà, exceptionnel pour donner aux gens envie de revenir. Au niveau culturel, c'est vrai que sur notre territoire, je le disais, on a beaucoup de chance. On a aussi une association qui s'appelle la Loggia, qui fait de la programmation et avec qui on a signé une convention tous les ans, et qui permet de programmer des spectacles très différents dans des lieux très différents. Et donc on arrive à avoir finalement un panel d'offres culturelles très large. Si on couple avec ça les expos qui ont lieu à la médiathèque, des films au cinéma, et bien finalement sur un territoire rural comme le nôtre, on a du théâtre, on a de la musique, on a des films, on a des expos, mais comment ?
Et des randonnées.
Et des randos. Et c'est assez exceptionnel. En arrivant, je disais à Benoît qu'il y a 15 jours, on a inauguré un parcours d'interprétation du patrimoine sur lequel on travaille depuis 2 ans. On a fait le pot à la médiathèque, dans lequel il y avait l'exposition d'une artiste rennaise qui s'appelle Biodive. Et on a pu parler patrimoine, on a pu parler culture, on a pu parler nature, tout ça sur une même matinée. Et voilà, ça donne du sens. Et ça donne du sens aussi à notre rôle d'élu. Bon, je voulais parler aussi rapidement, mais on pourra peut-être y revenir, des résidences d'artistes en milieu scolaire. Et ça, c'est important parce que on a travaillé avec la DRAC, on a échangé avec la DRAC, et on a réussi à convaincre les directions d'école de mettre en place ces partenariats avec nous. Donc, on est sur notre deuxième session de 3 ans où on cofinance avec la DRAC des résidences d'artistes en milieu scolaire. Et c'est comme ça qu'on sème des graines et qu'on donne aussi aux enfants l'accès et le dialogue avec des artistes qui peuvent être des plasticiens, qui peuvent être des musiciens, qui peuvent être des gens du milieu du cinéma. Et cette diversité-là, on leur offre cette possibilité-là à laquelle ils n'auraient pas eu lieu forcément. Ils n'auraient pas eu accès forcément si on n'avait pas insisté, si on ne s'était pas mobilisé sur le sujet. Je suis désolée, j'étais un peu longue.
Non, pas de souci. Bah, Jean-Michel, justement, voulait réagir sur... est-ce que c'est de la DRAC, de l'aide des instances, de comment... Non.
Non, c'était sur le propos qui vient d'être tenu autour de cette expérience de la commune de Plélan avec une compagnie et un maire. Madame le maire de Plélan est membre de l'association Brudette, je crois l'avoir compris. Au sein de cette association, il y a manifestement, on le sait, des maires qui ont à l'esprit la finalité de leur mandat, qui n'est pas uniquement de bien gérer une commune. Évidemment, il faut bien gérer une commune. Mais la finalité de leur mandat, à Brudette, comme manifestement à Plélan-le-Grand, c'est d'aller au-delà de la qualité d'une gestion, c'est de construire du sens et du sensible, et c'est de participer à ce que l'on a appelé très longtemps et que l'on oublie un peu aujourd'hui, l'émancipation individuelle et l'émancipation collective. Et on voit que dans une commune comme Plélan, quand il y a des talents qui s'installent dans la commune et qu'ils trouvent écho auprès d'élus sensibles à ça, eh bien ça peut prendre, comme à Mélionnec, ça prend. Mélionnec, c'est 420 habitants. C'est un des grands centres français aujourd'hui du cinéma documentaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des talents qui sont venus s'installer, que ces talents ont convaincu des élus, que les élus ont soutenu les talents, qu'il y a une dynamique qui s'est construite. C'est l'histoire de Payac autour de Jean-Bernard Vighetti. C'est l'exemple. On pourrait en prendre plein d'autres comme ça. La grande boutique à Langonnette, on est à Langonnette, on est dans le milieu rural, il y a des talents, Éric Marchand et beaucoup d'autres, qui se sont installés là, qui sont venus, qui ont créé une dynamique. Il y a eu... Voilà. C'est ça que je voulais dire. Et moi, je développe mon propos quelques instants. Des élus comme ça, aujourd'hui... Je trouve qu'il y en a peut-être moins que dans notre histoire. Et pire encore, je trouve que les grands élus ont oublié progressivement, depuis à peu près 4 décennies, et je pourrais le développer, ont oublié progressivement que la finalité d'une démocratie, qui se traduit par l'aventure de la République en France, c'est l'émancipation. C'est de traduire liberté, égalité, fraternité sur tous nos territoires. Mais liberté, c'est liberté de création. C'est donner les moyens à une compagnie de construire des projets. Liberté. Égalité, c'est de se dire que chacun peut avoir accès. Égalité, égale dignité des cultures, etc. Et fraternité, ben, c'est de dire qu'on est d'ici, on est de Payac, on est de la Gacilly, mais on est ouvert au monde. La Gacilly, avec son festival photo, c'est extraordinaire. C'est très enraciné, c'est à la Gacilly, mais c'est ouvert au monde. Il y a une idée de fraternité qui traverse tout ce qui se passe dans le festival photo et dans la politique culturelle de la Gacilly. Bref, mais pour ça, il faut des élus. Et le maire de la Gacilly, il est convaincu. Et manifestement, la maire de Plélan, elle est convaincue. Le maire historique de Payac, il est convaincu. Mais nos grands dirigeants aujourd'hui, est-ce qu'ils sont convaincus de ça ? J'ai l'impression que les politiques culturelles, maintenant, c'est des variables d'ajustement, c'est un strapontin que l'on donne, et puis après tout, c'est plus au cœur véritablement du projet. Alors je le dis parce que pour moi c'est l'essentiel. Parce que de l'autre côté, chez les dictatures, c'est toujours au cœur du projet. La première chose que fait une dictature toujours, c'est de faire taire les poètes, les musiciens et les artistes. Toujours. Parce que la liberté de création, ça gratte. Eh bien, moi, j'aimerais que dans nos démocraties, dans nos vieilles démocraties, on n'abandonne pas ça. Voilà. La liberté de création, ça peut gratter, oui. Mais c'est justement pour ça qu'on est là, qu'on est élu, qu'on est citoyen, pour que ça gratte. C'est ça, la démocratie.
Jean-Michel, je sais que tu n'es plus aux commandes de la région, mais si on parle de cette question, du spectacle vivant milieu rural, on n'est pas là pour opposer, mais on a quand même toujours un peu une image un peu de ce qui peut se passer en milieu urbain. Il y a le milieu rural, le milieu urbain. On n'a pas de chiffres aujourd'hui. On n'a pas réussi à en avoir avec la région pour savoir quel montant pouvait être attribué plutôt à ce qu'on peut appeler les grandes agglomérations et le milieu rural. C'est très compliqué pour eux. C'était pas une question, peut-être une question qui grattait un peu, je ne sais pas. Sur le mandat que tu as fait, comment est-ce que c'était est-ce qu'il y avait une réflexion autour de ça aussi, de se dire on a un équilibre? Parce que alors ça c'est un sentiment très personnel, mais on a eu l'occasion de discuter souvent de ça, mais c'est de se dire, sur un bassin comme on regarde le bassin rennais, on a l'impression qu'il y a 3 festivals par semaine, et que en plus de cela, on a l'impression que cet argent qui, du coup, avec la ville de Rennes, donne de l'argent, il y a souvent ce qu'on appelle, eh bien, le ruissellement. On entend souvent ce mot-là, mais il n'empêche que une ville comme Rennes Agglo, qui a un budget culture qui est pratiquement plus important que celui de la région Bretagne, tu me rediras, fait que la Rennes Agglo va donner aussi, et la région va être obligée de donner. Et nous, quand on arrive dans un milieu rural, et qu'on sent que déjà il y a une réticence, ou alors même une mairie qui va essayer même de donner 1000 euros et qui a l'impression d'avoir donné énormément, va faire que le ruissellement pour l'agglomération va être compliqué et il va être pratiquement inexistant au niveau régional. Comment Est-ce que toi, quand tu étais élu, ou comment aujourd'hui, quelle réflexion il y avait par rapport à ça? Parce que l'argent, la profusion de spectacles ou pas, c'est aussi un sujet qu'on a abordé là.
Je me permets deux secondes de rebondir sur ce qu'a dit Jean-Michel par rapport à la présence des élus ou les grands élus. Moi, je tiens à remercier Paul Molac, puisqu'il est notre député systématiquement en soutien. Il passe du temps avec nous sur chaque manifestation qu'on a pu faire jusque-là, et il vient pas simplement serrer des mains, il vient passer du temps, comprendre ce qu'on fait, échanger, donner son point de vue, et je tiens à le remercier.
C'était la petite parenthèse qu'il fallait faire qui fait du bien.
Oui, oui, et que je partage totalement, de toute façon. Et je ne désespère pas, il y a toujours des députés, des parlementaires, et je l'espère d'autres, beaucoup d'autres, parmi ces grands élus qui ont toujours ça à l'esprit. Je note quand même qu'au plus haut niveau, la culture est devenue une politique parmi d'autres. Bon, voilà. Et pour moi, la culture n'est pas une politique parmi d'autres. C'est au cœur d'un projet démocratique. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas une rame de TGV en plus ou en moins. On parle de l'essentiel, on parle de l'émancipation. Bon, fin de parenthèse. Premièrement, il faut regarder les choses de près. J'ai un exemple très précis à l'esprit parce que ça avait amené un certain nombre de polémiques avec beaucoup d'acteurs institutionnels rennais. J'ai à l'esprit la responsable d'un festival, un gros festival de cinéma de Rennes, donc qui, dans ta comptabilité, est un important festival de cinéma dans une métropole, qui ne pouvait même plus se payer au SMIG et qui avait accepté de passer à temps partiel. Voilà, il y a aussi ça dans les grandes villes. Hein ? Bon, donc il faut le dire parce que c'est une réalité concrète. Et je me rappelle très précisément de ce cas-là parce que je ne l'avais pas accepté. C'est-à-dire que c'était tellement intégré que les difficultés budgétaires étaient prégnantes que la directrice du festival acceptait de passer à temps partiel alors qu'elle était payée au SMIG avec le parrainage de son propre président d'association. Voilà. Et il y avait autour de la table la ville, le département, la région, l'État, tous des gens de gauche, tous des gens formidables. Et tout le monde acceptait ça. Et moi, je ne l'ai pas accepté. On n'en est quand même pas là, c'est pas possible, quoi. Bon, bref.
Donc. On l'accepte pas non plus à Orange-Givray. Quand on est en réunion avec Anthony, on insiste dans le bureau, mais non, tu dois vivre de ton activité. Et c'est un des points de départ de la création de l'association, c'est-à-dire, effectivement, on est convaincu derrière que les talents attirent les talents, ça fait écho, et donc on accompagne vraiment, c'est une création d'entreprise, une création de compagnie de théâtre. Et il faut que l'artiste, le comédien et toutes les personnes qui rayonnent autour vivent de l'activité, c'est-à-dire aient une rémunération décente de tout ce qu'ils proposent, de liens sociaux et de toute leur création.
Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'était un premier élément de réponse. Il ne faut pas, à mes yeux, forcer le trait. Il n'y a pas les riches d'un côté et les pauvres de l'autre. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a aussi des associations d'éducation populaire dans les quartiers rennais qui tirent la langue, hein, aussi. Bon, bref, et il faut les soutenir. Deuxième élément de réponse, de mon temps, là c'est vraiment l'ex qui parle, je suis désolé, on essayait de créer des pondérations. C'est-à-dire qu'on regardait l'environnement territorial, voilà, clairement. Et donc, projet plus ou moins égal, ou du moins très proche. Il y avait plus dans un milieu rural où il y avait peu de présence artistique et culturelle que dans une métropole, pour un projet similaire. Voilà. Pourquoi ? On partait d'un raisonnement simple, c'est qu'à Rennes, il y a 60 000 étudiants, et donc que les recettes du projet pouvaient, a priori, être plus facilement mobilisées que... je parle de Millionnec, par exemple. Bon, voilà. Donc, Millionnec, c'est un gros projet, c'est très concret. Ça a été bien plus subventionné que si le projet de Millionnec s'était inscrit à Rennes. Ça, c'est clair. Et c'était justifié. Voilà. Et justifiable. Voilà. Donc, deux éléments de réponse. Ne pas caricaturer. C'est plus compliqué que ça, toujours. Et on peut faire des pondérations. Et on a fait des pondérations.
venez d'écouter J'irai m'instruire chez vous, et dans l'émission d'aujourd'hui, Anthony Sérazin se trouvait dans la salle Artemisia à la Gacilly le samedi 30 septembre pour les 10 ans de la compagnie Orange Givré. À cette occasion, une table ronde était organisée pour soulever les questions essentielles concernant le spectacle vivant en milieu rural et faire le point sur son état actuel. À la suite de cette table ronde que nous venons d'écouter, avait lieu un temps d'échange avec le public de l'Artemisia. Je vous invite donc à retrouver cette seconde partie en podcast sur le site de la radio plumefm.net. C'était J'irai m'instruire chez vous sur les belles ondes de Plume FM.